Tout d'abord, bien aimé, je voudrais vous remercier pour cette nouvelle invitation dans votre communauté. Vous remettre les salutations de mon épouse qui, pour le moment, n'est pas très bien, donc elle a dû rester à la maison. Mais aussi les salutations de l'église que nous fréquentons là-bas en Espagne. Quand je leur dis que je vais retourner en Belgique, ils me disent bien « Salut nos frères en Belgique de notre part » parce que la communauté des enfants de Dieu est immense. Elle est beaucoup, elle dépasse bien largement ce local. Alors, il y a déjà certains d'entre vous qui m'ont déjà entendu. Nous avons échangé tout d'abord, dans un premier thème, la notion d'être enfant de Dieu et l'identité que nous avions. Si certains d'entre vous se rappellent, l'identité, c'est ce qui distingue quelqu'un au milieu de tous les autres. Donc, on en avait conclu cela, nous ne sommes pas comme le monde qui est autour de nous parce que nous sommes enfants de Dieu. Un peu plus en arrière, nous avons découvert celui qui avait un plan pour notre vie, celui qui voulait faire quelque chose de bien pour nous, celui qui avait tout créé, je dis bien avait tout créé, pour que tout se passe bien pour l'homme. Dieu, que j'avais d'ailleurs comparé à ce moment-là à un architecte. Lorsque je lui ai parlé de cet architecte, j'ai dit que voilà, l'architecte n'est pas toujours là sur le chantier, quelqu'un va venir, il va vous aider à construire votre vie. Et j'avais parlé de Jésus. Jésus était un peu ce conducteur des travaux qu'elle a pour rappeler les consignes et pour rappeler ce qu'il faut faire. Un tout petit préambule pour bien poser les choses. Mais parfois, ce conducteur des travaux doit partir pour une raison ou une autre et ne nous laisse pas seuls. Il y a quelqu'un d'autre qui va être délégué, comme on va dire, pour continuer son travail. Il y a quelques semaines, déjà, nous avons commémoré le départ de celui qui était venu rappeler les consignes par l'ascension. Jésus est parti, il n'est plus là. Mais, avant de partir, il a promis quelque chose. Je vous enverrai quelque chose. Nous avons fêté ça la semaine passée. La Pentecôte, la venue de l'Esprit-Saint. Mais je voudrais, avant d'aller un peu plus loin, mettre les choses au point et de bien voir d'abord de qui nous parlons. De qui nous parlons quand nous parlons de l'Esprit-Saint, celui qui est là? De qui parlons-nous? Et je dis bien de qui, je ne dis pas de quoi parlons-nous, je parle de qui parlons-nous. Alors on va partir au départ. On va partir au départ et on va les présenter. D'abord Dieu, le Père. Est-ce que j'ai besoin de présenter Dieu le Père? Non, parce qu'il est l'auteur de toutes choses, là on est bien d'accord. C'est celui qui sait quoi faire. Je dis, c'est celui qui avait, je dis bien qui avait, tout prévu pour que tout se passe bien, quitte à me répéter. Donc c'est intéressant de parler de lui. Alors Jésus. Ah, Jésus. Jésus, notre Seigneur, le Fils du Père, c'est comme ça qu'on le définit, c'est comme ça qu'il se définit lui-même. Celui qui est venu pour rappeler les consignes, pour remettre les choses en place, pour bien expliquer qu'on n'a pas toujours bien compris la parole et que quelque part on s'est un petit peu égaré. Ces consignes devaient permettre, dans un premier temps, le peuple d'Israël de revenir dans le plan de Dieu et de revenir dans ce plan parfait que Dieu avait fait pour l'homme. Et enfin, celui qui vient après le départ du Fils de l'homme, l'Esprit-Saint. Départ nécessaire. D'ailleurs, ça nous est rappelé dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, pour ceux qui veulent voir ça, chapitre 14 de Jean. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est Jésus qui parle. Jean 14, et nous lirons les versets 2 et 3. Il part, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Voilà pourquoi Jésus part, parce qu'il a tout simplement autre chose à faire. Mais il ne nous laisse pas seuls. Est-ce que nous avons affaire là à trois personnes différentes ? Ah, ça c'est une très bonne question. Est-ce qu'on a affaire à trois personnes totalement différentes ? Je pense que la plupart d'entre nous savent très bien que non, on n'a pas affaire à trois personnes tout à fait différentes. Et notre frère, ce matin, nous a lu le début de l'évangile de Jean. Eh bien, on va y retourner. Au premier chapitre de l'évangile de Jean, qu'est-ce qu'on lit ? On va d'abord lire les premiers versets. Le verset 1, tout simplement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et là, ça devient intéressant. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Alors, si je vais au chapitre 14, un peu plus bas, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette parole ? Et la parole a été faite chair. La parole était Dieu et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié : c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alors, là, on peut déjà se poser la question de qui est réellement Jésus. La parole était Dieu, la parole s'est faite chair et la parole a habité avec nous. Et si on va un petit peu plus loin, au chapitre 14, toujours dans Jean, c'est simplement pour bien savoir de qui on parle, avant d'aller un peu plus loin. Jean au chapitre 14, qu'est-ce qu'on retrouve là-bas ? Jean chapitre 14, les versets 7 et 8. Discussion entre les disciples et Jésus. Discussion sur la nature de Jésus. Alors Jésus va leur répondre ceci. Si vous me connaissiez, au verset 7, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous avez vu qui ? Dieu, mon Père, Dieu. Alors là, on peut aller plus loin. Alors Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus va lui répondre ceci, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Et il insiste, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Alors comment dis-tu, « Montre-nous le Père. » Je pense que là, on a déjà la nature de Jésus, de qui est réellement Jésus. Il nous reste à définir l'esprit, la troisième personne, comme on dit. Alors là, on reste toujours dans l'évangile de Jean, on ne va pas aller tellement loin, on va aller au chapitre suivant, au chapitre 15, et là, on va voir ce que nous dit le verset 26. Donc Jésus annonce ce qu'il va faire, il annonce qu'il ne va pas les laisser tout seuls, il annonce cela, il dit voilà, non, je ne vais pas vous laisser tout seuls. Il dit, quand sera venu le Consolateur et que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui vient du Père. On est chaque fois remonté à la même personne. On est remonté tout en haut. C'est ce que là que certains appellent communauté le mystère de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, quel mystère ? Eh bien, moi, je n'y vois aucun mystère. Pardonnez-moi, ça n'engage peut-être que moi, mais moi, je n'y vois aucun mystère. Je vois simplement, un, Dieu aime l'homme, 2. Dieu revient vers les hommes pour prouver son amour et pour dire qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour revenir vers moi et pour leur apporter le pardon et la grâce. Et 3. Dieu revient de nouveau vers l'homme pour habiter en lui et pour pouvoir continuer à le diriger. Voilà exactement comment moi je vois le mystère de la Sainte Trinité. Et c'est pour ça que je dis, il est important de savoir, non pas ce qui habite en nous, non pas des langues de feu, non pas du vent, non pas un murmure, non pas de l'eau, c'est quelqu'un qui habite en nous. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Rappelons-nous que la personne qui vit en nous, ce n'est pas la moindre des personnes, avec ce que l'on vient de définir maintenant. Il nous parle. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Un peu comme si, je vous pourrais me permettre cette comparaison, c'est comme s'il ferait partie intégrante de notre patrimoine génétique. Il est en nous. Rappelez-vous le livre de la Genèse. Comment l'homme est-il créé et comment vit-il? Il vit par le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui est mis dans l'homme pour qu'il vive. Donc Dieu vit en nous. Il est là. Alors je voudrais voir un peu plus en avant, et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet pour un petit peu savoir de qui on parle. On va voir comment est-ce que nous pouvons continuer à construire cette fameuse identité pour rester dans le plan que Dieu a fait de nous. Et fort de ça, je voudrais d'abord poser une question. Je ne vais pas vous demander de lever la main parce que je pense que je vais faire une unanimité ici dans la salle. Avons-nous toute confiance en Dieu? Est-ce que nous mettons toute, je dis bien toute, notre confiance en Dieu? Quelle bonne question. Vous vous rappelez la comparaison que j'avais faite entre Dieu, l'architecte, hein, l'architecte qui établit des plans? J'avais dit, il faut qu'on fasse confiance à son architecte, parce que si on ne lui fait pas confiance, on ne peut pas construire notre maison. Ou on ne va pas la construire convenablement parce qu'on n'a pas confiance à ce qu'il a dessiné. Donc, on doit avoir confiance. Alors, comme la première fois, quand je voulais définir ce que ça voulait vraiment dire identité, j'ai voulu savoir ce que voulait dire le mot confiance. Ah, tout le monde connaît le mot confiance. Mais j'ai vraiment voulu savoir ce que disait le mot confiance. Alors, je suis un peu plus moderne, je n'ouvre même plus mon dictionnaire, j'appelle mon IA, comme on dit maintenant, et je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, confiance, c'est quoi? Alors il me répond ceci, la confiance, c'est l'espérance ferme, c'est l'assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Donc l'assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un, voilà, moi j'ai tout à fait confiance en lui, il va faire des choses bien. Et puis je dis, il n'y a pas d'autre mot pour dire ça, parce que c'est intéressant aussi les synonymes hein, qu'on utilise. Alors il me dit, oui, la sécurité et la foi. Ah, la foi. Là, je suis un enfant de Dieu et le mot foi m'interpelle vraiment au plus profond de moi-même. La confiance, c'est la foi. Faire confiance, c'est croire en la fiabilité, la véracité, la capacité ou la force de quelqu'un ou de quelque chose. Ainsi donc, par corollaire, on va dire, faire confiance à Dieu signifie croire en sa fiabilité, croire en sa parole, croire en sa capacité d'agir et croire en sa force. Et de plus, toute la Bible m'enseigne une chose sûre et certaine, Dieu ne ment pas. Croire un menteur, c'est dangereux. Mais lui, il ne ment pas. Donc on peut vraiment croire en lui. Parce qu'il tient toujours ses promesses. Pour utiliser le mot confiance et le remplacer dans votre tête parfois, la confiance en Dieu est une vertu fondamentale. fondamentale du chrétien. Si vous relisez Calvin et ce qu'il écrit par rapport à cela, c'est fondamental pour un chrétien, la foi. Parce que si on n'a pas la foi, qu'est-ce qu'on fait là ? Elle consiste donc à se remettre en Dieu et ne pas craindre d'avancer sous le regard de Dieu. Mais la confiance et la foi, c'est une vertu qui va se cultiver tous les jours. On l'a pas, c'est pas un acquis comme ça, c'est quelque chose qu'on cultive tout le temps. Comment ? En nous abandonnant totalement à Dieu. Et là, on passe, la définition de confiance devient véritablement de la foi. Pourtant, quand je parcours les Écritures, je me rends compte que ça ne va pas de soi. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a plusieurs cas. On va avancer dans la Bible, on ne va pas y aller, je vais les citer comme ça. Adam, le tout premier, il n'a pas cru, hein, pour finir. Il n'était pas certain que s'il touchait à l'arbre de la vie, du bien, la mort, etc., le mal, etc., il n'était pas très certain. C'était un peu confus dans son esprit. Il y a quelqu'un d'autre qui lui expliquait. Ça, c'est un autre problème. Mais quelque part, quand on a toute confiance en quelqu'un, on dit non, toi, tu me racontes des histoires. Moi, j'ai confiance en ce que lui, il m'a dit. Ben, quand même, là, il y a un petit premier dérapage. Abraham, ah, le père des peuples, Abraham, tu auras une postérité, regarde le sable, regarde les étoiles, ta postérité, et puis une femme qui ne fait pas d'enfant. Oh. C'est pas un problème, ça. J'aurai une grande postérité, et puis ma femme, elle ne fait pas d'enfant. Ça ne marche pas, on n'arrive pas à avoir des enfants. Oh. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Ah ben, il va faire une bêtise, hein. Il va la faire. Il va aller vers une autre, il va avoir un enfant, oui, là il va en avoir un, et là on sait ce que ça a donné. Mais là, gros problème. Et puis, grosse surprise, pour bien prouver que Dieu ne ment jamais, sa femme va avoir un enfant, hein. Tard, très tard. Non, mesdames, faites attention, Dieu peut tout faire, hein. Donc, méfiez-vous quand même, hein. Quand Dieu a décidé quelque chose, même la nature ne sait rien faire la contre. Mais Dieu a quand même tenu sa promesse malgré le manque de foi d'Abraham, parce que quelque part il y avait un manque de foi qui était là. Et pourtant toute la Bible enseigne qu'Abraham était un homme de foi. Mais non, il y a quand même eu un moment donné, il y a eu un dérapage. On va prendre un petit dernier dans la Bible, Pierre. Pierre, tu es Pierre. Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, il ne peut rien t'arriver parce que j'ai besoin de toi pour bâtir mon église. Qu'est-ce qu'il va faire, Pierre ? Il va renier Jésus 3 fois. Pourquoi ? Parce qu'il a la trouille. Parce qu'il a peur. Pourtant, la confiance qu'il aurait dû mettre en Jésus, moi, je vais dire, oui, je le connais. Je connais ce gars et j'étais avec lui parce que de toute façon il ne peut rien m'arriver. Il a besoin de moi, il me l'a dit. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est comme ça. Pourtant, il a eu peur. Alors maintenant, on va quand même retourner dans la Bible et on va prendre, on va dire, 2 exemples vraiment flagrants d'un manque de foi totale. Alors on va d'abord aller dans le livre de l'Exode. On va aller très vite. Hein. On va commencer au début, Exode. Exode au chapitre 14, Exode 14, et là nous allons voir ce qui se passe. C'est un texte, je pense, qu'on connaît bien, hein. C'est un texte où on a déjà souvent déjà beaucoup prêché là-dessus. Mais voilà ce que cela nous dit. On va lire, commencer à partir du verset 2, et voilà. Donc l'Éternel parla à Moïse, Exode 14, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le pays et le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Et ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, eux, étaient sortis la main levée, donc sans armes, confiants. Les Égyptiens les poursuivaient, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, près de Pi-Hahiroth, bien sûr, et vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait, et les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Et Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » On va retenir ce texte, on va en reparler. Mais nous allons aller un peu plus loin dans le livre des Nombres. Ils ont cheminé, ils ont traversé le désert, ils sont de l'autre côté, ils ont quand même tourné un fameux moment dans le désert. Et ils sont devant la terre promise, va-t-on dire, Canaan. Livre des Nombres, qu'est-ce que je trouve dans le livre des Nombres ? Dans le livre des Nombres, nous irons au verset 4, au chapitre 14, pardon. Et là, nous allons lire d'abord les quatre premiers versets du chapitre 14. Non, pas 14, excusez-moi. On va commencer par le 13, parce que 14, c'est la fin de tout. On en parlera après. Chapitre 13, les versets 1 à 3. Après, je vous ferai grâce de ce qui suit, et on passera un morceau. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus, de leurs pères, et tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Là, on va sauter tout ça, parce que là, vous avez la liste de ceux qui sont partis. Si vous voulez lire ça, c'est intéressant de savoir qui est allé là, mais voilà, ce n'est pas vraiment le sujet ce matin. À partir du verset 17, qu'est-ce qui nous est dit ? Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont couvertes ou ouvertes ou fortifiées, et ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a pas. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamat. Ils montèrent vers le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheshai, Talmai, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux, au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshkol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Et ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le pays de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. » Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hessiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, le début du chapitre 14, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Belgique ?» Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Et puis je vais prendre un petit texte qui se détache de tout cela, mais que vous allez bien retenir parce qu'il va réapparaître un peu plus tard. Mais on va le lire maintenant. Allons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Matthieu, chapitre 18. Toujours discussion entre les disciples et Jésus. Forcément, il est là pour les enseigner, donc les disciples posent des questions, comme les étudiants normalement sont censés le faire à leur professeur. Posent des questions. À partir du premier verset, 18. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Voilà, jusqu'ici, la lecture de la parole. Les deux premiers textes que nous avons lus sont des exemples flagrants d'un manque de confiance en l'Éternel. Nous y voyons deux types de raisons dans lesquelles nous pouvons, nous aussi, manquer très facilement de confiance. Premièrement, la peur panique. Il faut imaginer le film, hein, là. Ils sont dans le désert, on les a emmenés dans un endroit où la seule issue, c'est la mer qui est devant. Alors bon, on se dit, on va voir, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, et puis on regarde derrière, et qu'est-ce qu'on voit arriver ? L'armée de Pharaon. Waouh ! Ça va mal finir. Où on avance ? On se noie, parce qu'on va s'enfuir et on va se noyer. Ou on reste là, et excusez-moi l'expression, qu'est-ce qu'on va prendre ? Ouf ! En plus, on n'est quasiment pas armé. Ils ont peur. Pourtant, est-ce que Dieu ne leur a pas déjà prouvé sa puissance ? Les plaies d'Égypte. Qui a fait ça ? Pour forcer Pharaon à ce qu'ils partent. Est-ce qu'ils étaient eux capables de faire ça ? Non. C'est Dieu qui leur a prouvé cette puissance. C'est Dieu qui leur dit, je vais faire de vous une nation, vous allez avoir une terre, allez, il faut partir, il ne faut pas rester ici en Égypte. C'est Dieu qui leur dit tout ça, par la bouche de Moïse, mais c'est Dieu qui leur parle. Alors où était leur confiance à ce moment-là ? Lui qui avait massacré tout le monde jusqu'au fils de Pharaon, lui qui avait affamé, lui qui avait... Il avait fait plein de choses pour qu'ils partent. Et ils ont peur. Là, ils se disent, là, il nous a laissé tomber. Là, non. Ça va mal finir. Il se sent seul, le peuple. Il se sent complètement abandonné. Est-ce que ça ne nous arrive pas parfois de nous sentir seuls et abandonnés? Simple question. La deuxième chose que nous voyons, c'est dans le second texte. C'est un manque de confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'ils ont complètement oublié de qui les envoie là-bas. Moïse leur donne les consignes de Dieu. C'est Dieu qui les envoie là-bas. Et pourquoi n'ont-ils pas confiance? Parce qu'ils se basent sur leur propre force, leur force à eux. Là, quand ils disent, nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. On ne va pas s'en sortir, hein, parce que là, ils vont nous mettre une raclée, ça ne va pas traîner. Ça, on ne peut pas aller contre des gens pareils. On n'est pas assez fort. Ils ont, je pense, totalement oublié que c'est quelqu'un de très fort qui les a envoyés là-bas. Et certainement beaucoup plus fort que ne pouvaient l'être les géants d'Anak. Ça, c'est un exemple de ce que nous sommes parfois, bien souvent. Vous savez en qui l'être humain a le plus confiance? Non? En lui. Il se connaît bien. Moi, je me connais, j'ai confiance en moi. Vous avez jamais entendu cette phrase? J'ai confiance en moi. Eh ben oui, ça, c'est bien, formidable. Vas-y, t'as confiance en toi. Attention, ne me faites pas dire ou ne comprenez pas ce que je ne veux pas dire. Dieu nous a donné des tas de choses pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse faire ça, bien sûr. On a reçu des talents, on a reçu des dons. J'ai toujours dit, on n'a pas un ici qui n'en a pas reçu. Tout le monde en a reçu. Du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus vieux. On a tous reçu quelque chose. Ça, c'est certain. Intelligence, réflexion, force physique, force de caractère, je ne sais pas. Toute une panoplie. Et pourtant, parfois, ça ne fonctionne pas. Alors, on se pose des questions. Ça ne marche pas. Pourquoi? Qu'ai-je raté? Où n'ai-je pas été bon? Ai-je bien tout compris? N'ai-je pas surévalué mes forces? On n'a pas oublié quelqu'un, là, à un moment donné. Avec tous ces jeux-là, à un moment donné, il n'y a plus que moi. Hein. Je regarde autour de moi, il n'y a plus personne. C'est quoi encore la foi? La foi? C'est la confiance absolue en quelqu'un. Ça, c'est la foi. C'est un petit rappel comme ça, au milieu du texte. Parce qu'ici, il s'agit de quelqu'un. On a bien vu qu'il s'agit de quelqu'un. Quelqu'un qui vit en nous. Quelqu'un qui est là en nous. C'est Jésus qui dit ça, hein, c'est pas moi. Moi en eux. Moi, je vis en eux. S'ils croient en moi, s'ils croient en la parole, je vis en eux. Ce n'est pas une entité comme ça. Non, non. C'est lui. Il vit en nous. Et lorsque ce quelqu'un a du cœur, a le cœur de vous aider, on a toujours le choix. Nous avons été créés libres et responsables à l'image de Dieu. Nous avons le choix. Le choix de l'accepter. Ou le choix de se débrouiller tout seul. Ça, on a ce choix-là. Alors, je vais vous donner un petit exemple sur parfois, je crois qu'il ne faut pas oublier de demander et surtout d'écouter quand on demande quelque chose. Il y a pas mal d'années de ça dans une autre église. Peut-être certains de vous ont déjà entendu ce témoignage par rapport à autre chose. J'avais été chargé de former un certain groupe de jeunes qui avaient demandé pour aller vers le baptême. Donc on a discuté de pas mal de choses sur le baptême, sur la foi, sur Jésus, sur ceci, sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que la prière, qu'est-ce que... On avait été un petit peu en avant, non pas pour les instruire, parce que je crois que le principal, c'est d'abord de les baptiser, puis instruisez-les. C'est dans ce sens-là que le Christ a dit, hein, baptisez-les, instruisez-les. Il n'a pas dit instruisez-les pour pouvoir les baptiser. Il n'a pas dit ça. Mais répondre à leurs questions, tout simplement. Répondons à nos questions. Et quelque temps après, je reprends, j'ai une de ces jeunes filles qui était devenue une maman, une dame, qui va me raconter quelque chose. Et elle va me dire, tu sais, Jean-Marc, je me rappelle des échanges qu'on a eus comme ça quand j'étais adolescente, hein, j'avais 16-17 ans, et je me rappelle de ça. Et pourtant, tu vois, à un moment donné, j'ai eu une drôle de vie. Je suis parti de la maison, je commençais à fréquenter des milieux glauques, sorti en boîte, on s'amuse, on fume de temps en temps un joint pour faire comme tout le monde. Enfin bref, elle m'explique tout ça. Je rencontre un gars, ah, il est beau comme un dieu, qu'est-ce qu'il est magnifique. Je me mets avec lui, il me fait un bébé, je suis enceinte, mais c'est un gars malfaisant. Il boit, il se drogue, et quand il est dans cet état-là, il ne tient pas. Et puis un beau jour, voilà, il va me battre. Et là, moi, comme je suis enceinte, ça, je ne peux pas l'accepter. Et je suis retourné chez mes parents en me disant comment ils vont me recevoir. Elle a bien fait, parce que les papas et la maman, je les connaissais bien. C'est vraiment des gens, c'est l'image du père dans les fils prodigues. Ils n'attendaient qu'une seule chose, c'est qu'elle revienne, peu importe comment elle allait revenir. Quand elle est revenue, je ne vous dis pas la fête à la maison. Et puis, elle est allée se réfugier dans sa chambre et elle est rentrée en elle-même. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur. Parce que son compagnon est un être violent. Est-ce qu'il ne va pas apparaître ici à un moment donné et faire du mal à mes parents et continuer à faire du mal pour pouvoir m'arracher et me reprendre? Elle se pose toutes ces questions. Et puis à un moment donné, elle dit, je me suis dit, Dieu aide-moi. Dieu aide-moi. Voilà, c'est le moment. Aide-moi. Je ne peux pas m'en sortir. Aide-moi, j'ai la trouille. Aide-moi, aide-moi. Et elle va se taire et elle va attendre. Et elle dit, à un moment donné, je vois sur une étagère ma bonne vieille Bible. Tu sais, celle qu'on utilisait quand on avait les échanges avec toi, je la vois. Je prends cette Bible et je l'ouvre au hasard, totalement au hasard. Elle dit, je n'ai pas commencé à la feuilleter là. Tu sais, j'avais oublié à peu près tout ce que tu nous avais appris. Je l'ouvre. Et vous savez sur quel texte elle tombe? Et là, elle avait compris. Là, elle a compris. Elle tombe sur un texte que nous connaissons bien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. C'est un texte qu'on retrouve dans Ésaïe. Ésaïe va dire ça au peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël est perdu, et il ne sait plus. Dieu lui a répondu d'une certaine manière. Elle a refait sa vie, elle a rencontré un autre garçon avec lequel elle a refait une vie. Et maintenant, c'est une maman comblée. Le premier petit, il est là. Enfin, il est plus subtil que ça maintenant. Et elle a eu d'autres enfants. Et elle a compris une chose, c'est ce qu'elle dit. Elle a compris ce qu'un autre texte nous apprend aussi. Vous pouvez prendre la référence dans le livre des Proverbes. Au chapitre 3. Livre des Proverbes, chapitre 3, on peut le prendre, voilà, on peut le lire comme ça, parce que je le dis parfois, mais voilà, on va aller très vite dedans, ça va vite. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers, ça veut dire qu'il va te donner la possibilité d'y aller. Écoutez bien, il ne faut pas transformer le texte, hein, parce que souvent on demande à Dieu de faire les choses à notre place. Non, il nous donne la possibilité de le faire. Il nous donne cette possibilité d'avancer de l'avant. Là, je m'adresse justement, je ne sais pas s'il y a des étudiants ainsi dans la salle, hein, comme disait très bien notre frère ce matin, je vais le rappeler, c'est le moment, hein, ça va être les examens. Là, en plus, avec la grève des profs, ça, on se demande tous comment on va y aller, mais quelque part, il va y avoir les examens. Alors, on a beau être brillant, on peut être beaucoup de choses, mais on peut être fatigué à un moment donné, on ne peut plus. Là. Parfois, la matière... j'ai une fille qui a fait des études à l'UNIF, elle me disait, papa, je vais mourir. Pourquoi ? Regarde tout ce qu'il y a sur mon bureau, moi, comment je vais avaler tout ça ? C'était pas possible. Pourtant, elle a quand même fait. Mais je pense qu'à ce moment-là, il faut demander au Seigneur, non pas de passer l'examen à votre place, parce que ça, il ne fera pas, ça, je vous le dis tout de suite. N'espérez pas une seule seconde de rentrer dans la salle et il sera là pour répondre à vos questions. Non, ça ne marche pas. Ah non. Mais demandez-lui, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ça ? Ça sera peut-être tout simplement le fait de dire, repose-toi un petit peu. Attention, repose-toi. Hein. Ne te repose pas comme on fait beaucoup. Hein, avec le smartphone, et on commence à jouer, on a l'intention, et puis à un moment donné, le cerveau il prend plein de la matière en plus. Parce que ça, on oublie parfois, hein, ce qu'on fait parfois, ça, notre cerveau, on lui met des trucs en plus. Non, il va dire, repose-toi, mets-toi dans un coin, repose-toi, souffle un coup. Et puis reprends ta matière, tu vas voir, ça va aller. Ça marche, hein. Je peux vous dire que ça marche. Vous pouvez essayer. Hein. Si ça ne marche pas, vous pouvez me téléphoner, je vous laisserai mon adresse. D'accord ? Mais moi, je vous dis que ça marche. Vous savez, ce qui est important, c'est que Dieu, comme notre frère nous l'a dit ce matin, Dieu est à l'écoute. Quelqu'un qui vit en moi, il est en première loge pour m'écouter. Mais quelqu'un qui vit en moi, il est en première loge pour me parler aussi. Alors parfois, quand on prie, on sort tout là. On n'arrête pas. Là, derrière l'autre. Moi, j'imagine parfois Dieu, à un moment donné, lever sa main et dire, est-ce que je peux en placer une, s'il vous plaît ? Et on ne lui donne pas toujours le temps de répondre. Et alors après, on s'étonne, mais il ne m'a pas répondu. Mais forcément, il faut d'abord lui laisser le temps de vous répondre. À un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut écouter. C'est ce qu'elle a fait. À un moment donné, cette femme, elle m'a dit, moi, je me suis arrêtée, je ne savais pas quoi dire. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que c'est à ce moment-là qu'il peut vous répondre. Fais silence, peuple de l'Éternel, je ne sais plus quel prophète a dit ça, mais c'est intéressant de le savoir aussi. Et il y a une chose aussi que je pense qu'on doit totalement oublier. Ce sont ces phrases assassines. Du style, tu sais, là où tu t'es mis, mon ami, même Dieu ne peut pas faire grand-chose pour toi. Hein. On entend ça, hein. Ou culpabiliser en disant, là où je suis, je ne vois pas comment il va faire quelque chose pour moi. C'est une phrase de désespoir, ça. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et ça, c'est ce qu'on dit aux prisonniers quand on va les voir en prison, demander aux aumôniers de prison. Parce qu'il y a des prisonniers qui se détachent de Dieu parce qu'ils sont convaincus que Dieu ne peut plus rien pour eux. La première chose qu'on leur apprend, c'est que ce n'est pas vrai. Ce que tu crois là n'est pas vrai. Demande-lui, demande comment tu peux changer, demande comment tu peux faire ta vie, demande-lui ce que tu peux faire. Et tu verras, les choses changeront. Et c'est bien les choses qui arrivent bien souvent. Je vais clôturer peut-être par notre troisième petite lecture. Vous rappelez la lecture, Jésus ? Qui sera le plus grand dans le royaume des cieux ? J'aime bien faire ça comme ça, donner une lecture au début, puis voir si à la fin, elle est encore là. Qui sera le plus grand dans le royaume des cieux ? Si vous ne devenez pas humble comme ce petit enfant, hein ? Alors nous, on est des adultes. Alors s'il y a bien une chose parfois qu'on n'a pas envie de redevenir, c'est des enfants, hein, parce que... Quand on est adulte, au moins, on a le pouvoir, on peut faire des choses, on peut décider des choses. Quand on est enfant, ce n'est pas toujours vrai. Pourtant, c'est ce que Jésus nous demande. Et pourquoi Jésus nous demande ça ? Pourquoi est-ce qu'il demande qu'on devienne des enfants ? Bien-aimé, parce que la confiance d'un enfant, la confiance totale, elle va vers qui ? Vers ses parents ? Vers son papa ? Vers sa maman. J'ai 9 petits-enfants. quand ils sont chez moi à la maison et qu'il y en a un qui tombe et qui se fait mal, vous croyez qu'il court dans mes bras? Il court vers son papa ou vers sa maman. Hein. Pourtant, ils ont confiance en leur grand-père. Hein. Je suis quelqu'un, je joue avec eux, je rigole avec eux. Ils ont même parfois plus de liberté que moi qui n'en ont jamais avec leurs parents. Mais ce n'est pas vers moi qu'ils viennent. Ils vont vers la personne en qui ils ont mis toute leur confiance, toute leur foi. Papa, maman. Voilà pourquoi Jésus nous demande de devenir comme eux. C'est une des raisons, je n'ai pas dit que c'est là, c'est une des raisons. Une des raisons dans lesquelles Jésus nous demande de redevenir comme eux. Comme le petit enfant, ça ne va pas, je vais vers qui? Mais je vais vers toi. Je vais vers toi, Seigneur. Ça ne va pas, je vais vers toi. Je ne vais pas vers mes copains. Regardez, Job, il était, ses copains, ils sont venus. Hein. Ah, il était bien après ça, hein, quand les copains sont venus. Lisez le livre de Job, hein, il a passé un bon moment là, avec ses copains. Non. Quand est-ce que ça s'est arrangé pour lui? Quand à un moment donné, il a commencé à poser des questions à Dieu. Il a littéralement demandé des comptes à Dieu. Hein, c'est ce qu'il a fait. Hein. Et là, ça s'est arrangé. Parce qu'alors, là, Dieu lui a dit, bon, maintenant, on va s'expliquer. Hein, t'as tout faux, mon vieux, ça ne va pas. C'est important de savoir ça, de revenir vers lui. Mais pour ça, on doit être proactif. Être proactif, c'est être avec lui. C'est être en relation avec lui. Être proactif, c'est avoir une complicité avec Dieu. Un jour, j'ai un jeune qui m'avait dit, j'ai beaucoup prié, j'ai raté mon examen. Eh bien, j'en veux à Dieu. J'ai dit, tu lui as dit? Il a dit, pardon, moi je ne vais pas dire ça à Dieu. Ben si, dis-lui. Dis-lui que tu as raté ton examen par sa faute, dis-lui. Et tu verras ce qu'il va te répondre, parce que moi j'ai l'impression qu'il n'a rien à voir là-dedans. Ça, c'est un autre problème. Mais si tu ne lui dis pas, comment tu veux qu'il te réponde? Tu accuses quelqu'un, tu ne lui laisses pas le droit de te répondre. Non. La proactivité, c'est ça. C'est demander à Dieu, il y a que ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là? Quoi, tu m'as laissé tomber, Job? Tu m'as laissé tomber? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quoi? Et là, bien-aimé, il va vous répondre. Et ça, c'est la proactivité. Être proactif, on doit l'être avec Dieu. On doit pouvoir, dans notre prière, lui demander et attendre. Et peut-être que la réponse ne va pas venir tout de suite. Parfois, elle ne viendra pas tout de suite. Elle mettra peut-être du temps à venir. Ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas vous aider. Ça n'a rien à voir. Et parfois, la réponse qu'il va vous donner n'est pas du tout celle que vous espériez. Parce que parfois, on pose des questions, mais on aimerait bien avoir la réponse qu'on connaît. Ça aussi, c'est très humain. Hein. Hein, papa, est-ce que je peux avoir une glace? Qu'est-ce qu'on espère? Hein, oui, ben c'est non, ça c'est raté. Et ça fait mal. Mais c'est une réalité. Et bien Dieu, parfois, il peut vous dire non. Et s'il vous dit non, c'est parce qu'il sait, lui, la suite. Chose que nous ne connaissons pas. Et ça, c'est la confiance totale. C'est dire, même si ce que tu me dis, c'est pas ce que j'attendais, je sais que tu vas agir de façon à ce sera pour mon bien. Ne tournons pas sur nous-mêmes. Alors je vais vous dire une prière qui est utilisée dans des groupes très connus, je ne nommerai pas. C'est une prière qui est faite à la fin de chaque réunion. Et cette prière dit ceci. Dieu, donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées. Le courage de changer celles qui devraient l'être et la sagesse d'en connaître la différence. C'est un pasteur allemand, ceux qui aiment bien les références, il s'appelle Reinhold Niebuhr. Il est mort il n'y a pas longtemps, 1971. Donc voilà. C'est un pasteur qui a fait ça lors d'un grand congrès. Il a terminé le congrès par cette prière. C'était justement un congrès sur la confiance. C'était un congrès qui réunissait des tas de pasteurs sur la confiance. Parce qu'au moment où il a dit ça, les églises n'allaient pas très bien. Et là, c'est la confiance, c'est de dire à Dieu, donne-nous, parce que nous sommes certains que tu vas le faire. En retenant bien une chose importante, et je vais vraiment terminer par ça, que celui qui demande, demande avec foi, en ne doutant aucunement. Car celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent agite. C'est pas Jean-Marc qui dit ça, c'est Jacques, dans son épître, dans le premier chapitre. Que celui qui demande, demande avec foi, sans douter. Foi et doute, ce sont les deux opposés. On ne peut pas être plus loin à l'opposé. Il y a une chose qui est sûre, et là je voudrais terminer sur une note de réconfort. Bien-aimé, Dieu vous écoute. Soyez-en sûrs, il est là. Il a entendu tout ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec ça, je ne sais pas ce à quoi je dois m'attendre, mais il est là. Il vous écoute. Vous n'êtes jamais, jamais seul. Il n'y a pas un cantique où on chante ça ? Non, jamais tout seul ? Mais c'est une réalité. Nous ne sommes jamais seuls. Tout simplement pourquoi ? Parce que nous sommes ses enfants. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Voilà ce que je voudrais te dire. Et quand on est un enfant, qu'est-ce qu'on fait ? Je m'en remets à toi, Esprit de Dieu, car toi seul peux m'aider. Voilà ce que je voulais échanger avec vous ce matin. Amen. Et je vais tout simplement terminer par un petit moment de prière, si mon frère me le permet encore. Voilà, je vous demande d'incliner un peu la tête et d'avoir une courte prière. Seigneur, Seigneur, nous voulons nous remettre totalement entre tes mains. Notre première demande est que tu nous aides à ne pas flancher dans notre confiance envers toi. Tu nous as tant prouvé ta fidélité, tant par les œuvres que par le sacrifice de ton Fils Jésus, alors que nous étions tellement éloignés de toi. Nous te bénissons, nous t'adorons, Père Céleste. Toi, notre Père qui vit pour les siècles des siècles. Amen.